Voilà, nous allons nous tourner maintenant vers ces psaumes et je vais prier à Dieu pour son aide dans notre étude de sa parole. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, que tu es le Dieu qui parle, ainsi que parce que par ton esprit, ces paroles qui ont été écrites il y a plus que 2000 ans sont pertinentes pour nous aujourd'hui, sont vivantes. Et que tu nous donnes de t'écouter, que tu nous donnes des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à nous dire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que vous écoutez lorsque vous faites un long voyage? Imaginez que vous partez en vacances, si c'est toujours possible, en voiture, et vous avez besoin de rester éveillé, de rester motivé pour le voyage. Qu'est-ce que vous allez mettre sur le stéréo de votre voiture? Qu'est-ce que vous allez écouter? Qu'est-ce qui garantit de vous donner de l'énergie, de vous garder éveillé dans ce sens? Peut-être que vous avez une bonne playlist de Spotify à tout préparer. Peut-être que vous avez le CD d'écriture, bien sûr, dans votre voiture. Vous l'écoutiez tout le temps. Peut-être que vous avez lancé une voiture avec des cassettes. Voilà, pour moi, je me souviens bien de l'époque où pour pouvoir écouter de la musique qu'on voulait dans la voiture, il fallait enregistrer une cassette, prendre le temps à écouter toutes les chansons, les mettre en un bon ordre et préparer cela. Je ne vous dirai pas ce qu'il y avait sur mes cassettes comme musique. Voilà, à vous de deviner, c'était les années 90 ou quelque chose. Je ne sais pas si je vais écouter à tout cela toujours. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'on met des chansons en route pour nous aider à faire passer le temps lors d'un long voyage. Les chansons nous encouragent peut-être, nous motiver. Et c'était plus ou moins en fait ça le but des psaumes ici que nous allons étudier ce matin. Ce ne sont pas des chansons ringardes des années 90, mais ces psaumes étaient choisis et assemblés avec soin pour encourager le peuple de Dieu lors d'un long voyage. Est-ce que vous avez remarqué, quand Benjamin nous a lu ces psaumes, et si vous avez votre Bible, merci de regarder là, en haut de chaque psaume, les psaumes sont intitulés Chants des montées. Et c'est une allusion en fait au voyage que chaque Israélite devait faire chaque année normalement, depuis le lieu de résidence, n'importe où en Israël, jusqu'à Jérusalem. Et tout au long de la montée, parce que bien sûr, on monte à Jérusalem, ils chantaient ces chants pour s'encourager, pour se motiver. Il y en a 15 en fait. On a lu les trois premiers, mais si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir qu'à partir du psaume 120 jusqu'au psaume 134, ce sont tous des psaumes, des chants des montées. Et ces psaumes ont été assemblés avec soin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour être utilisé et chanté par les Israélites au fil des siècles. Et grâce à l'Esprit et à la présence de Dieu, pour être chanté par les chrétiens aussi, et lu par nous-mêmes. Et en fait, Jésus lui-même aurait chanté ces psaumes. Ils s'en servaient pour prier lors de sa vie sur terre. On imagine qu'il aurait chanté ces chants avec ses disciples en montant à Jérusalem. Et en plus de ceci, nous allons voir que ces psaumes vont par groupe de trois. C'est pour cela qu'on en a lu tous les trois. Vous pouvez regarder avec moi rapidement le contenu du psaume 120. Et puis on va comparer ce contenu avec le psaume 122. Et vous verrez que le psalmiste parle des problèmes 120 au début d'un voyage, si vous voulez. Il y a loin de Jérusalem dans ce psaume. Et on lit là dans le psaume 120 qu'il est bien dans la détresse, n'est-ce pas? Entouré de menteurs, il dit. Il parle d'être vivre parmi des gens qui détestent la paix. Et en fait, les deux lieux géographiques mentionnés, Meshech et Kedar, sont aux deux extrémités, nord et sud du pays d'Israël. Aussi loin qu'il était possible d'être de Jérusalem, au centre du pays, là où Dieu vivait dans son temple. Et donc le psalmiste, il crie vers Dieu pour l'appeler au secours parce qu'il vit dans un lieu dépourvu de gens de bien. Il souffre, il en souffre profondément. Il se sent loin de Dieu. Il est loin, loin de la paix. Et maintenant, alors, comparons cela avec le psaume 122, qu'est-ce qu'on lit? Mais là, on y retrouve le psalmiste à Jérusalem. Il se tient aux portes du temple, verset 2. Il n'est plus loin à Kedar ou ailleurs. Il est arrivé. Et il loue Dieu dans son temple. Il y trouve la paix, la justice et la perfection. C'est parfait, il dit. Vous voyez la progression, le changement? Si vous n'êtes pas convaincu, en fait, pourquoi pas lire le reste des psaumes des montées plus tard? Et vous allez voir, à chaque fois, c'est en trois. On commence avec un problème, et puis on termine où là, tout est résolu, deux psaumes plus tard. Il y a une progression semblable chaque fois. Et puis, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, d'abord, psaume 120, problème, détresse pour nous aussi. À la fin du trio, bah, comme 122, le problème est résolu. Donc la question pour nous, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, le psaume 121? Et c'est en quelque sorte la réponse dans le psaume 121 au problème qui fait passer le psalmiste du début de son voyage, où il est loin, jusqu'à son arrivée, à la fin. Alors normalement, on va juste projeter là un slide qui vous montre les titres des différents psaumes. Je vais donner juste un tout petit résumé en quelques mots pour nous aider à voir cette progression cette fois-ci. Psaume 120, on lit des souffrances présentes. Psaume 122, on a la clé pour continuer d'avancer. Et puis le psaume 122, on est dans les réjouissances futures du psalmiste. Donc nous allons nous concentrer maintenant sur le psaume 121 en détail. La clé pour continuer d'avancer. Mais avant cela, nous devons quand même nous demander pourquoi nous avons besoin de comprendre ce psaume ainsi. Pourquoi continuer d'avancer? Et pourquoi, déjà pour les Israélites, faire le long voyage à Jérusalem? Pour les Israélites à l'époque, Jérusalem était le centre de l'univers, le lieu le plus beau et le plus important de toute la terre, pour la simple raison que le temple de Dieu s'y trouvait. Imaginez que vous êtes un Israélite à l'époque et vous vivez loin, peut-être tout au nord du pays. Ça a été une longue année pour vous. Vous avez un gros problème. C'est quoi? Vous avez commis des péchés et vous vous sentez coupable. Et le moment est donc venu de faire votre pèlerinage annuel et monter à Jérusalem. Vous partez alors avec toute votre famille, les voisins peut-être aussi, vous marchez en groupe pour avoir de la protection pendant des jours à travers le désert. La poussière, la chaleur, le soleil qui vous tape sur la tête. Et voici qu'enfin, vous parvenez au sommet du mont des Oliviers. Et Jérusalem s'étale devant vous. C'est une ville magnifique, rayonnante, belle. Et ce qui vous saute aux yeux surtout, c'est ce bâtiment immense qui domine le paysage. Toutes les maisons à Jérusalem font voilà, un ou deux, trois étages maximum. Mais le temple se tient fièrement en plein milieu, 10 fois plus haut que tout ce qui l'entoure, tout en or et en bois précieux. Et le plus beau, c'est quoi? Que quand le prêtre aurait sacrifié l'animal que vous lui amenez, vous aurez la certitude que Dieu vous a pardonné. Vous saurez à nouveau que vous faites partie de son royaume sous sa bénédiction. Vous pourrez alors rentrer tranquille, en paix avec Dieu. Et c'est pour ça que le psalmiste veut vraiment désespérément quitter les lieux éloignés, Meshech et Kedar, pour atteindre Jérusalem. Il veut être avec Dieu, le louer, se réjouir avec le peuple de Dieu. Psaume 122 est plein de la beauté de Jérusalem, car c'est là que Dieu est présent. Alors, Qu'en est-il pour vous et moi, Bruxelles 2020? Aujourd'hui, les choses sont différentes. Nous savons que Dieu ne vit plus dans le temple. Le christianisme n'a plus de centre géographique. Si on vous dit que vous devez aller à Jérusalem de votre vivant, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais de faire cela, mais il n'y a vraiment pas besoin. Ou même simplement, si on vous dit que vous devez être dans un bâtiment d'église pour adorer Dieu, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas de Mecque, pas de lieu saint pour le chrétien. Et en plus, en fait, il n'y a pas de sacrifice non plus. Et à 2000 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre et s'est offert en sacrifice ultime et parfait une fois pour toutes, dit l'Épître aux Hébreux, pour payer pour les péchés de ceux qui acceptent son sacrifice. Et c'est sur cet acte fondamental que repose désormais le pardon des péchés, la réconciliation, notre relation avec Dieu. Et du coup, ça veut dire que les choses ont changé et ont avancé. Et pour le chrétien, pour vous et moi maintenant, au lieu de rechercher une ville terrestre, nous recherchons une ville céleste, la nouvelle création. Et donc, nous lisons ces psaumes différemment. Quand eux, ils parlent de Jérusalem, par exemple, nous devons comprendre tout de suite qu'il s'agit pour nous de la nouvelle Jérusalem, une ville céleste, là où Dieu habite. Et le voyage qu'effectue un chrétien, alors, n'est plus un voyage à travers des paysages géographiques, mais à travers les paysages de sa vie, de la vie. Alors, mettez-vous maintenant dans le psaume 120 avec cela en tête. Posez-nous la question, êtes-vous attristé par le monde qui vous entoure? Les chrétiens sont persécutés, ridiculisés. Partout dans le monde, il y a le mensonge, la tromperie. Vous vous sentez loin, très loin de Dieu? Est-ce que cela ne vous fait pas vous languir d'arriver au psaume 122, au paradis, là où il n'y a que la présence de Dieu avec Jésus? Ce sera une ville où tout le monde accepte et aime et adore Dieu, où la paix règne, la sécurité. Dieu aura jugé et puni tous ceux qui font le mal dans ce monde-là. Justice sera faite. Plus de mort, de souffrance ou de guerre. Plus de crise sanitaire. On se sent perdu dans ce monde, n'est-ce pas? Et le chrétien devrait désirer là, ardemment, être dans ce lieu sûr où règne la paix parfaite. Et oui, alors le psaume 121 nous aide à voir comment y parvenir, comment continuer à avancer dans notre voyage vers la ville céleste éternelle. Alors comment atteindre cette cité céleste, le paradis avec Jésus? Trois choses. Et premier grand point, dans les versets 1 à 2, on lit qu'il faut reconnaître sa faiblesse et demander de l'aide. Reconnaissez votre faiblesse et demandez de l'aide. Versets 1 et 2. Lisons le verset 1. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une vieille chanson, je ne sais pas si c'est en français en fait, mais à l'époque, moi, en tant qu'enfant, moi, j'avais chanté une chanson qui parlait à partir de ce verset, de regarder vers les montagnes pour un peu trouver l'inspiration. C'était un peu ça l'idée qu'ils ont pris de ce psaume. Mais en fait, je crois que le sentiment ici est plus ou moins exactement le contraire. Les montagnes, à l'époque surtout, mais toujours, sont des endroits dangereux, traîtres même. C'est épuisant d'y monter et elle regorge de bandits attendant l'occasion de se jeter sur vous pour tuer et voler. Surtout vous êtes là en famille en train de juste voyager vers Jérusalem, quoi. Donc, l'auteur reconnaît que dans une telle situation, avec le danger que l'on tord, qu'il est impuissant sait pas où, d'où viendra son secours. Les montagnes sont trop difficiles et ne promettent que le danger. Et du coup, il se tourne vers celui qui puisse l'aider. Et vers qui se tourner? Ben, sinon, vers celui qui a tout créé, le Créateur des cieux et de la terre. Il est tout bête, n'est-ce pas? Que quand nous avons du mal dans la vie, nous devrions nous tourner vers celui qui a tout créé pour lui demander son aide. Pourtant, on trouve ça parfois assez difficile. Je sais que peut-être certains parmi nous, moi y compris moi-même, se font parfois un point d'honneur de ne jamais lire la notice d'utilisation quand nous achetons un nouveau gadget ou une nouvelle machine ou quelque chose. Pensons qu'il nous suffit simplement juste d'appuyer sur tel ou tel bouton et puis voilà, nous nous étonnons quand la machine refuse de faire ce que nous voulons. Mais bien sûr, si nous voulons faire fonctionner quelque chose, nous savons que la première chose à faire, c'est quand même de consulter la notice d'utilisation. Ou encore mieux, d'appeler la personne qui a inventé l'objet. Et pourtant, dans la vie, nous essayons si souvent, n'est-ce pas, de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. C'est notre première réaction humaine, orgueilleuse. Quand je rencontre des difficultés, la première pensée qui me vient souvent à l'esprit, c'est « il faut que j'essaie encore plus fort ». Mais qui est le Créateur de toutes choses et de moi? C'est Dieu lui-même. Donc quand je lutte, quand j'ai des difficultés, je dois reconnaître que j'ai besoin d'aide en premier. Ouvrez ma Bible et priez. Alors, quelle situation et quelle personne trouvez-vous difficile en ce moment? Est-ce que vous luttez en voyant la crise autour de vous? Qu'est-ce qui se passe dans vos relations, la famille, au bureau? Vous pouvez vous adresser au Créateur de tout ça et lui demander son aide. Et plus important encore que de surmonter ces adversités, ce qui est vital, c'est que nous continuons en tant que chrétiens, en tant que ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Peut-être, pour vous-même, il est vital d'abord que vous placez votre confiance en Jésus, que vous devenez chrétien vraiment, pour une toute première fois. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui pense que pour aller au paradis, ben oui, il faut juste essayer de faire ce qu'il faut, ne pas être trop mauvais et ne pas faire d'autres choses mauvaises. Peut-être que vous avez du mal à maintenir la face en ce moment, spirituellement parlant. Vous faites tout pour plaire aux autres et vous n'êtes pas sûr de pouvoir continuer comme ça encore longtemps. Ben, ici, nous voyons un bon principe, un principe fondamental de la vraie vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne ne repose pas sur nos efforts à nous. Elle commence par l'admission que nous sommes incapables, impuissants. Donc la première étape, c'est toujours de reconnaître notre faiblesse et de nous tourner en toute humilité vers notre Créateur. Mais c'est pas que vous soyez chrétien de longue date. Et là, la lutte, c'est quoi? C'est que vous pensez souvent que vous pouvez continuer à avancer tout seul. On demande à Jésus, et puis c'est à nous. On avance par nos propres efforts quand même. Mais c'est pour cela que le psaume continue avec les versets 3 à 6. Et là, nous allons voir, deuxième grand point, que l'instruction de continuer vous tournez vers le Seigneur pour lui demander son aide chaque jour et à chaque instant. Continuez de vous tourner vers le Seigneur pour lui demander son aide chaque jour et à chaque instant. Ça ne dérange pas de demander de l'aide, n'est-ce pas, quand on a un grand problème, quand c'est évident que nous sommes incapables de nous en sortir seuls. Mais parce que Dieu est réellement le Créateur souverain des cieux et de la terre, il est bien plus puissant que cela. Nous raisonnons souvent à l'inverse, je crois, en nous disant « Dieu, il est grand et puissant, alors je ne veux pas trop le déranger pour les petites choses. Ça va pour les grandes choses, mais sinon, pff, voilà, je vais trouver une solution moi-même. Et donc, quand il s'agit de décider quelle carrière poursuivre, qui épouser, ce genre de décision, là, ok, super, je peux lui en parler. Mais quand je suis blessé parce que quelqu'un m'a traité avec méchanceté, quand je suis anxieux à cause d'une situation dans ma vie, souvent je me dis peut-être, ouais, pas sûr que Dieu a le temps pour cela. Mais que disent ces versets? Quel est le temps? Quel est le caractère de Dieu ici dans les versets 3 à 6? Relisons ces versets. Verset 3 du psaume 121. Qui ne permettent pas à ton pied de trébucher, qui ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. Mais qu'est-ce qu'on voit ici alors? Ben, on voit la véritable mesure de la puissance de Dieu. Et c'est sa capacité infinie à prendre soin de toutes les petites choses dans son univers, pas seulement les grandes. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il est l'ombre qui est juste là, permanence. Et les versets 3 à 4 nous disent que Dieu ne dort jamais. Le sommeil, pardon, c'est l'une des choses, n'est-ce pas, qui prouve aux hommes qu'ils sont fragiles. Si nous sommes privés de sommeil, les choses ne vont pas très bien. Nous tomberons rapidement malades, nous aurons du mal à accomplir les choses les plus banales dans notre quotidien. Et quand nous dormons, ben voilà, nous sommes complètement vulnérables. N'est-ce pas? Mais le Seigneur ne dort jamais. Et puisqu'il ne dort jamais, il veille constamment sur ceux qui lui demandent de l'aide. Il les protège. C'est ce qu'on voit au verset 5 à 6. Le soleil et la lune représentent les dangers du jour et de la nuit, et pourtant le Seigneur est toujours là. Je ne sais pas quand vous pensez à Jésus, à votre Dieu. Créateur, votre Sauveur. Peut-être c'est juste un dimanche matin, certains moments dans la semaine ou dans certaines périodes dans la vie. Mais le psalmiste nous rappelle avec douceur qu'il n'existe pas un moment où le Seigneur ne pense pas à nous. Et pas un moment où il n'est pas prêt à nous secourir et nous aider. Bien sûr, cela nous pousse à poser une question, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait se dire, en lisant ce psaume, alors il suffit de faire confiance à Dieu pour que la vie soit simple, sans difficulté, facile, que tout le monde nous aime, que nous ne rencontrions aucune lutte si on fait vraiment confiance à lui. Mais alors, dans ce cas-là, il faut que nous comprenions les versets 7 à 8. Et donc, troisième et dernière chose, nous voyons ici que l'appel à vivre pour la vie éternelle et non pour le succès terrestre. Verset 7 à 8, vivez pour la vie éternelle, non pour le succès terrestre. Lisons le verset 7. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Alors si vous pensez que cela veut dire que la vie sera facile et parfaite, vous allez être vite profondément déçu et vous laisserez probablement tomber Jésus-Christ. Mais n'arrêtez pas là notre lecture, car on dit qu'il gardera ta vie, il gardera, verset 8, ton départ et ton arrivée, c'est-à-dire tout ce que tu fais, dès maintenant et pour toujours. Et donc ce psaume, en fait, a une vision beaucoup plus longue que la vie terrestre. Ce psaume parle en fait des gens qui vont vivre pour toute l'éternité, pour toujours. Vous le voyez ça? Le Seigneur gardera ta vie pour toujours. Tout le monde meurt physiquement. C'est la seule statistique complètement sûre. Et donc ce psaume ne peut parler de cette vie si seulement, il doit aussi vouloir parler de plus que cela. Vous vous souvenez du contexte que nous avons mentionné au début? C'est un psaume qui parle de nos vies en tant que chrétiens en route vers l'aboutissement de nos vies, l'éternité auprès de Dieu, ou le début de notre vraie vie, l'éternité avec Dieu. On lit alors que Dieu prend soin de nous, nous protège, est avec nous, protège nos pas et notre ombre pour nous permettre d'atteindre la vie éternelle, cette éternité avec lui. Il y aura alors une période de voyage pendant laquelle ce sera difficile. C'est la vérité profonde du christianisme. Nous ne recherchons pas la vie terrestre, mais une vie éternelle et céleste. Il est essentiel que nous le comprenions, sinon nous allons laisser tomber Dieu, comme dit, parce qu'il ne nous promet pas la sécurité, la paix sur terre dans cette vie, mais dans la vie éternelle, dans la nouvelle création, oui. Et en fait, ça veut dire que, comme dit, la vie ici sera difficile et dure. Une lutte, un voyage. Et comment faire face à cela? Versets 1 à 2, reconnaissez que vous avez besoin d'aide, que vous devez lutter. Et puis versets 3 à 6, reconnaissez que l'Éternel vous garde. Et versets 7 à 8, qui vous donnera la vie éternelle. Où nous vivrons enfin la paix et la prospérité du psaume 122. En d'autres mots, attendez-vous à un voyage difficile. Alors, comment réagissez-vous à cela? Ce serait facile de vouloir atteindre la fin du voyage pour arriver à cet endroit de paix et de justice tout de suite, n'est-ce pas? Dans notre lutte, dans notre péché, nous oublions souvent que Dieu se soucie de nous pour l'éternité. Et nous lui en voulions peut-être parce qu'il ne fait pas ce que nous voulons maintenant, parce qu'il gâche notre vie, peut-être qu'on a cette impression. Mais le fait que Dieu se soucie de notre destinée éternelle ne signifie pas qu'il ne soucie pas de nous ici et maintenant. Souvenez-vous, il est le créateur de toutes choses. Mais il veut que nous soyons avec lui pour toujours. Et parfois, alors, souvent, cela veut dire qu'il permet que notre vie ici soit difficile pour nous rappeler de cette réalité et nous empêcher de vivre pour le succès dans cette vie-ci. Oui, nous aimerions accélérer à travers les difficultés, les éviter entièrement si possible. Mais dans sa sagesse, en tant que créateur, le Dieu souverain et saint a appelé les chrétiens à souffrir dans cette vie-ci afin de parvenir à la gloire éternelle avec lui. Il nous appelle à résister à la tentation d'abandonner, à lui faire confiance et à continuer à persévérer en toute chose en tant que chrétien et à prendre des décisions qui l'honorent et à décider de mettre tout en œuvre pour le suivre. Et Jésus, c'est l'exemple de cela. Dieu nous appelle à le suivre et il nous montre l'exemple aussi de ce genre de vie, ce voyage de vie. Jésus, Dieu lui-même, s'est fait homme pour rentrer dans notre humanité et faire le même voyage que nous à travers la vie avec tous ses sacrifices, ses tentations et ses souffrances. Et il nous appelle à le suivre à travers la souffrance vers la vie éternelle qu'il a gagnée pour nous. Peut-être que pour vous, vous luttez avec un péché récurrent en ce moment. Peut-être que vous luttez avec les difficultés dans ce monde. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer à suivre Jésus. Peut-être que vous n'en pouvez plus avoir la peine de respecter tout cela et d'honorer Jésus dans ma vie. Peut-être que vous êtes fatigué de chercher à régler vos problèmes tout seul. Évitez de vous soumettre humblement à votre Créateur. Mais la lutte en vaut
la peine. Le jour viendra où Dieu restaurera toutes choses et mettra une fin au mal. Un jour où nous nous tiendrons dans la nouvelle Jérusalem, belle, la ville avec Jésus. Mais pour l'instant, il nous appelle, notre Créateur, à regarder à lui, à Jésus-Christ, et à continuer d'avancer sur la route à travers les paysages de cette vie terrestre. Et ce qui est un grand encouragement, c'est juste de penser à toutes les personnes, tous les gens qui ont lu ces psaumes à travers les années. On a déjà dit, ces psaumes sont vieux de plusieurs milliers d'années. Donc pensez à ceci, cela veut dire qu'il y a des gens au paradis avec Jésus à côté de lui en ce moment qui ont lu ce psaume, disons, il y a 2500 ans. Et parce qu'ils l'ont lu, ils ont fait confiance à Dieu et se sont tournés vers lui pour recevoir son aide. Peut-être que cela les a aidés d'arrêter une relation adultère ou à se soumettre à Dieu en tant que créateur pour une première fois ou à persévérer à travers leur souffrance personnelle. Et du coup, ils ont continué à honorer et suivre Dieu dans la lutte pendant 50 ans, gardés par son amour et sa grâce. Donc imaginez que vous leur parliez de leur expérience maintenant, c'était possible, si c'était possible. 2450 ans plus tard, ils sont là avec Jésus à profiter de la paix et la prospérité qui règne avec lui, à adorer Dieu avec la famille et les amis et des millions d'autres personnes. Imaginez que vous leur parliez de leur expérience. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous dirait que ça en valait la peine d'avoir vécu 50 ans de souffrance, mais de persévérance et patience en suivant Dieu durant leur vie terrestre, afin de passer déjà 2450 ans avec lui dans la paix? Et ils vont continuer à faire cela pour toujours. C'est un bon pensée, n'est-ce pas? Bien, de réfléchir à cela, c'est-à-dire... Oui, ça en vaut la peine en vue de l'éternité avec Jésus. Est-ce que vous allez le suivre pour cette vie-ci, en vue d'une vie avec lui pour toujours? Prions ensemble. Seigneur, que tu nous donnes de vivre une lutte pleine d'espérance pendant notre vie terrestre, en vue de cette éternité promise auprès de toi. Et nous te remercions pour Jésus-Christ, lui qui a connu la souffrance à nos côtés, qui a résisté à la tentation à notre place, et qui nous amène, grâce à son sacrifice, vers cette vie éternelle. Et que tu nous donnes, Seigneur, de nous encourager mutuellement, de se rappeler de ces vérités éternelles, et de continuer à travers les paysages de notre vie terrestre, à te suivre, à t'honorer pour ta gloire seule. Nous avons hâte, Seigneur, d'être au ciel, de rencontrer toutes ces millions d'autres personnes qui ont lu ces psaumes et qui ont persévéré vers l'éternité. Mais donne-nous d'être patients maintenant. Au nom de Jésus. Amen.